l'heure de fonctionner. Faux alerte, trop tard constaté. Le flingue a parlé premier. En innocent sur le pavé. Le crime a encore augmenté. Bois un justicier. Content pour un meurtrier. Qu'on a dit en utilité. Pour un ennemi imaginé. Avec ce genre de pensée. Avec ce genre d'unité. La rue a un nouveau danger. Les voisins veillent dans vos quartiers.
Combien ça coûte la souffrance?
Tout le monde se demande
combien ça coûte?
On fait les comptes et à l'ancienne, on fera tomber les têtes.
C'est là pour être payé.
Combien ça coûte
la différence?
L'exigence casse les reins pour gagner.
Combien ça coûte?
Répétez la calculette, on fera tomber les têtes.
C'est là pour payer.
Est-ce que la seule valeur qui vaille en ce début de millénaire? C'est le fric, la mitraille, le PES, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flous, les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question préoccupe, la nouvelle pauvreté. Faut nous dire combien ça coûte un kilomètre d'autoroute, Super Phoenix réformé. Un grand stade à footballer, combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer. Combien ça coûte la misère, combien ça coûte la souffrance, combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France.
Combien ça coûte
On fait les comptes et à l'ancienne, on va tomber les têtes.
C'est leur payer.
Combien ça coûte
la différence?
Tout le monde se demande
Combien ça coûte.
Répétez la calculette, on va tomber les têtes.
C'est leur payer.
Et tu sais combien ça coûte le pillage de l'Afrique, le diamant, le pétrole, un génocide ethnique, combien ça coûte une aide humanitaire au Darfour, combien ça coûte un Africain qui crie au secours, tout le monde est sourd. Quand y'a de l'oseille sur la table, business is business, pas de sentiment pour les misérables, c'est toujours les mêmes qui empochent le pactole, toujours les mêmes qui restent bloqués au sous-sol. C'est pourtant avec notre fric qu'ils soignent leur petit confort, qu'ils s'empiffrent, qu'ils s'engraissent comme des porcs. Combien ça coûte le mépris, le suicide d'un ouvrier, certainement pas autant qu'un parachute doré. Combien ça coûte un petit gueuleton au Fouquet? Combien ça coûte une croisière sur un yacht de la jet set? Alors vas-y, fais péter la calculette, on fera les comptes et à l'ancienne on fera tomber les têtes.
Combien ça coûte
la souffrance?
L'exigence casse les reins pour gagner.
Combien ça coûte
On fait les comptes et à l'ancienne on fera tomber les têtes.
C'est l'heure pour être payé.
Combien ça coûte
la différence?
Tout le monde se demande
Combien ça coûte.
Fais péter la calculette.
Dites-moi, combien ça coûte un Charles Leclerc, un Exo 7, un joujou de chez Dassault?
Un TGV supersonique.
Dites-moi, combien ça coûte un cocktail ministériel? Combien ça coûte les grands travaux présidentiels? Combien ça coûte la souffrance? Combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France? Combien ça coûte la misère? Combien ça coûte la souffrance? Combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France?
Combien ça coûte la souffrance?
L'indigence casse les reins pour gagner.
Combien ça coûte?
On fait les comptes et à l'ancienne, on va tomber.
We'll be right back. comme ça noir. Faudra que ton angoisse pareil si ça passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un documentaire qui était disponible en streaming sur le site d'Arte du 1er avril au 1er mai, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Un documentaire dont le titre est « Mort sous traitement ». À la suite d'un événement tragique, la mort subite de sa sœur diagnostiquée schizophrène et qui devait prendre quotidiennement 5 médicaments psychiatriques différents, Anniken Hall mène une enquête pour comprendre ce qui a pu mener à ce que les vies de milliers de personnes soient ainsi couramment mises en danger sans que personne ne s'en inquiète outre mesure. Ce documentaire montre comment l'industrie pharmaceutique exerce un contrôle tellement insidieux et puissant que son discours marketing en vient à constituer le fondement même des pratiques et des discours médicaux en psychiatrie. Comme dans n'importe quel autre marché économique, le discours marketing de cette industrie est uniquement motivé par le profit financier, mais fait pourtant office de discours médical au plus haut niveau. Celui des agences de sûreté, des revues scientifiques de renom et des enseignements officiels des académies de médecine. Eh bien, c'est ce que nous allons voir et entendre avec le son de ce documentaire « Mort sous traitement ».
Ces bagues appartenaient à ma sœur, Renate. Ce sont celles qu'elle portait le jour de sa mort. Elle n'avait que 34 ans. Cause du décès, inconnue. Il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler sur ce film, afin de percer le mystère de la mort de ma sœur. J'étais loin de me douter que mon enquête me conduirait jusqu'à l'industrie pharmaceutique et à son réseau d'influence au sein de notre société. Ces années, j'ai eu l'impression d'assembler les pièces d'un puzzle, sans savoir à quoi ressemblerait le résultat final. Et maintenant que je l'ai sous les yeux, il me paraît vital de le partager avec vous. J'aimerais savoir quel est le prix d'une vie humaine.
Antipsychotics are among the best-selling prescriptions in the world.
It's FDA approved for schizophrenia and bipolar disorder, but it's used for all kinds of things.
Serious adverse effects and deceptive marketing of their antipsychotic drug, Risperdal.
Shocking increase in the number of children taking antipsychotic drugs.
Renate est morte à l'âge de 34 ans seulement. Le lendemain du jour où a été trouvé son corps, je suis entrée dans sa chambre pour filmer les affaires qu'elle avait laissées derrière elle. C'était C'était un geste inconscient. Comme une dernière chance de me raccrocher à elle. Elle est morte alors qu'elle était dans un genre d'institution. Elle était suivie en psychiatrie pour schizophrénie. Ce que j'aimerais comprendre avec ce documentaire, c'est... Pour commencer, de quoi elle est morte exactement? Pourquoi est-ce qu'elle a été fauchée à 34 ans? Nous étions trois sœurs. Renate, Berit et moi, Anniken. Renate avait 10 ans de plus que moi. Depuis toute petite, je l'appelais Dada. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ce film, j'ai dû me mettre à utiliser son vrai prénom. Pour moi, elle sera toujours ma Dada. De sa mort, Renate prenait un cocktail de 5 médicaments à haute dose qui lui avait été prescrit par son psychiatre.
Alors je précise sur l'image est affiché Trilafon, alors c'est la dose quotidienne, hein, 216 mg, Truxal 25 mg 3 fois, Zopiclone 7,5 mg. Zyprexa, 20 mg, Risperdal, 4 mg.
J'ai demandé à ce médecin si ces produits avaient pu entraîner sa mort. Il m'a répondu que c'était impossible. J'ai commencé à me renseigner sur les médicaments prescrits à Renate, les antipsychotiques. Les antipsychotiques de première génération sont arrivés sur le marché à la fin des années 1950. Dans les années 1990, a été lancée une deuxième génération, avec le Risperdal du laboratoire Johnson & Johnson, le Seroquel d'AstraZeneca, le Zyprexa de Lilly, le Geodon ou Zeldox de Pfizer, et la Abilify d'Otsuka. Au cours des années 2000, ces antipsychotiques faisaient partie des médicaments les plus vendus au monde. J'ai découvert que 2 ans après la mort de Renate, une mise en garde pour risque de mort subite avait été ajoutée à la notice de tous les antipsychotiques avec lesquels elle avait été traitée. Son psychiatre m'a affirmé qu'aucun cas de décès lié à la prise d'antipsychotiques n'avait été signalé. Mais c'est faux. J'ai trouvé une liste de 126 cas. J'ai rencontré Kirsten Meer, experte chargée de recueillir et évaluer pour les autorités norvégiennes les notifications d'effets indésirables. Quelle est la part des effets secondaires effectivement notifiés?
Moins de 5% pour les effets graves. Ça a toujours été comme ça, et je ne crois pas que cela puisse s'améliorer, quelles que soient les mesures prises. Si je cherchais à connaître le nombre réel de décès dans lesquels les antipsychotiques ont pu jouer un rôle, vous pensez que j'aurais du mal? Oui. Tout le monde tient ces chiffres pour acquis. Mais il n'y a aucune raison de penser que le décès soit un effet indésirable plus notifié que les autres. Bien au contraire. Si l'on dit que 5% seulement des cas sont notifiés, alors il faut multiplier le chiffre par 20 pour se rapprocher de la réalité. On a 126 notifications. On peut donc tabler sur environ 2500 décès au total. Plutôt que 126. 2500 rien qu'en Norvège. Oui, c'est plausible.
On sait que les antipsychotiques sont capables d'altérer le fonctionnement du muscle cardiaque. Et on le sait depuis plus de 50 ans.
Le docteur David Healy, psychiatre, est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la psychopharmacologie.
On pensait que c'était gérable. Les agences du médicament semblaient avoir retiré du marché les médicaments qui posaient problème. Mais ce dont ni moi ni la plupart des gens ne se rendaient compte, c'est que presque toutes ces substances peuvent entraîner des modifications du cœur à un certain niveau. Il n'y a peut-être pas de quoi obliger un laboratoire à émettre une mise en garde pour risque mortel, ni de quoi retirer le produit du marché. Mais si vous êtes obligé de prendre plusieurs de ces médicaments et que chacun pose un petit problème, vous pouvez vous retrouver avec un très gros problème. Un problème qui peut causer votre mort.
En 2009, j'ai pu consulter des documents confidentiels concernant le Zyprexa, l'un des médicaments que prenait Renate. Je savais très peu de choses sur l'industrie pharmaceutique à l'époque, et il m'a fallu plusieurs années pour passer en revue tous ces articles et essayer de comprendre ce que je lisais. Mais une chose m'est apparue avec évidence. Les patients aux prises avec une maladie mentale n'étaient considérés que pour le chiffre d'affaires qu'ils pouvaient générer en tant que consommateur à vie. Le Zyprexa est produit par le laboratoire pharmaceutique Lilly, auquel on doit aussi le Prozac.
It's the hottest psychiatric drug in history.
Prozac. Wonder drug that works wonders.
Many Americans using Prozac right now.
Holiday season in New York City when the drug dealers are selling more Prozac than crack.
Le Prozac a révolutionné la médecine psychiatrique en permettant aux épisodes dépressifs d'être diagnostiqués et pris en charge par les généralistes et non plus uniquement les psychiatres. Le Prozac est rapidement devenu le médicament le plus vendu de l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Mais en 2001, Lilly a perdu l'exclusivité que lui conférait son brevet sur la molécule.
Prozac was your number one selling multi-billion dollar blockbuster as of that time, right? It was.
This is their annual report when they lost it. So what are we going to do now? We're going to use, as our front line, we're going to start replacing Prozac's business with Zyprexa business and make it into a billion-dollar blockbuster.
Lilly a lancé une campagne commerciale agressive avec sa propre chanson, baptisée Viva Zyprexa, reprise d'un air d'Elvis Presley, Viva Las Vegas.
Oh, purpose gonna set my soul on fire. Got a brand name Zyprexa with a whole new chance to get those stakes up higher. Thousands of patients are waiting up there. The way they're living just ain't fair, but you can bet they can get some help from primary care.
Viva Zyprexa.
Alex Berenson, ancien journaliste au New York Times, est un expert de l'industrie pharmaceutique. Il a été le premier à avoir eu accès aux documents ayant fuité sur le Zyprexa.
Quand un produit a un coût de revient de 5 cents, il est rarissime que vous arriviez à le vendre 5 dollars. Mais avec les médicaments, c'est possible, du fait qu'ils sont protégés par un monopole pendant plusieurs années. L'attribution d'une autorisation de mise sur le marché est toujours une bonne nouvelle pour un laboratoire. Mais c'est aussi le début du compte à rebours vers la date d'expiration du brevet. Et ça, tout le monde en a parfaitement conscience. Le but est donc d'optimiser ses profits pendant cette fenêtre de 13, 15 ou 17 ans et d'écouler un maximum de produits.
Ça vous dit quelque chose ?
Oh que oui ! Le Zyprexa en soins primaires. Les soins primaires, ce sont les généralistes, pas les psychiatres et encore moins les services hospitaliers. L'idée était de démarcher directement les généralistes.
Lily a utilisé la même stratégie qu'avec le Prozac, avec une politique de distribution agressive en direction des médecins généralistes. La différence était que le Zyprexa n'avait reçu d'AMM, ou autorisation de mise sur le marché, que pour le traitement de la schizophrénie et d'une forme rare de trouble bipolaire. Le laboratoire a donc dû convaincre les patients qu'ils n'étaient plus dépressifs, mais bipolaires.
Your doctor probably never sees you when you feel like this. This is usually who your doctor sees. That deeply depressed you who barely dragged yourself in for treatment. That's why so many people with bipolar disorder are being treated for depression and not getting any better. Because depression is only half the story.
Et le plus incroyable, c'est que le Zyprexa est devenu une source de revenus encore plus importante pour Lily que le Prozac ne l'avait été. Mais il s'est avéré que Lily avait quelques squelettes dans son placard.
Lily pleading guilty to criminal conduct after skating under the radar for years.
There's been rapid weight gain with the drug and elevated glucose, which can put folks at higher risk of developing diabetes.
So what is Zyprexa used for?
Lily a été condamnée à une amende de plus de 1,6 milliard de dollars pour avoir sciemment dissimulé certains effets secondaires du Zyprexa et s'être livrée à des pratiques commerciales illégales, appelées « off-label ». Cela consiste à vendre un médicament pour une indication différente de celle expressément prévue par son autorisation de mise sur le marché. J'essaie de contacter quelqu'un chez Lily.
À quel numéro peut-on vous rappeler?
My daughter uses my shampoo. Johnson's baby shampoo. Oh baby, 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 no.
Lily n'était pas le seul laboratoire à avoir quelques secrets inavouables. Johnson & Johnson, entreprise réputée pour ses produits pour bébés, commercialise aussi le Risperdal, un antipsychotique promu pour un usage hors indication et massivement prescrit à des enfants. J'ai rendez-vous avec Alan Jones, lanceur d'alerte ayant révélé les pratiques douteuses de Johnson & Johnson.
Ils avaient planifié de vastes campagnes de marketing pour commercialiser leurs produits en pédiatrie bien avant qu'ils n'aient reçu leur AMM. Ils récompensaient leurs commerciaux qui ciblaient les psychiatres spécialisés dans l'enfance et l'adolescence. Tout ça, c'était des business plans bien établis au plus haut niveau de l'entreprise. Les laboratoires pharmaceutiques ont menti à tout le monde, de bout en bout. Il se peut donc que le médecin qui a traité votre sœur n'ait pas su repérer les effets secondaires qui auraient pu signaler une détérioration de son état. Sans doute ne savait-il même pas que la mort subite faisait partie de ces effets secondaires.
Exactement. Il n'était pas au courant. C'est moi qui le lui ai appris. Ce que j'essaie de faire à travers ce film, c'est de remonter jusqu'aux personnes à l'origine de ces stratégies, au sein des laboratoires, et qui savaient ce qui risquait d'arriver.
Les dirigeants, les directeurs du marketing, tous ces gens qui savaient, ou auraient dû savoir, ou ne savaient pas, parce que les garde-fous nécessaires n'avaient pas été mis en place, devraient faire l'objet de poursuites, au civil et au pénal, pour homicide, trouble à l'ordre public, et pillage des caisses de l'État. Tant que l'on ne demandera pas de compte à ces individus, les laboratoires pharmaceutiques continueront de franchir toutes les lignes rouges et de s'affranchir des règles aussi souvent que possible.
Nous vous annonçons aujourd'hui que le groupe Johnson & Johnson ainsi que trois de ses filiales ont accepté de payer plus de 2,2 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites civiles et pénales dont ils faisaient l'objet. Ils étaient soupçonnés d'avoir mis sur le marché des médicaments délivrés sur ordonnance pour un usage hors indication. Cette conduite irresponsable a mis en péril la santé de quelques-uns des plus vulnérables de nos concitoyens, enfants, personnes âgées et handicapés.
On vient d'entendre au ministère américain de la Justice, le 4 novembre 2013, le discours d'Eric Holder, attorney général.
Les amendes infligées par le ministère américain de la Justice aux laboratoires pharmaceutiques sont les plus élevées de toute l'histoire des États-Unis. Les auteurs de ces crimes, eux, courent toujours.
Les dirigeants du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline ont participé à un événement à Las Vegas pour leurs commerciaux.
Qui veut gagner des millions ?
L'objectif, booster les ventes, relève pour le procureur d'une culture de la cupidité.
Il suffit de calculer. Il y a des gens dans cette salle qui vont se faire un fric fou.
Glaxo ne lésine pas quand il s'agit de séduire les médecins.
Du point de vue des laboratoires, ces amendes font simplement partie des frais généraux. Car tant qu'on n'est pas personnellement concerné par le risque, il suffit de savoir compter. Mettons que les ventes de Zyprexa vous aient rapporté 40 milliards de dollars en 15 ans, avec une marge bénéficiaire de 20 milliards. Si vous avez dû payer quelques milliards de dollars d'amende, eh bien, ça reste une bonne affaire pour les actionnaires, une bonne affaire pour les dirigeants. Une très bonne affaire. Ce n'est pas limité à Lilly, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer, Warner Lambert, Glaxo ou Bayer. Ce sont tous les mêmes. Parfois, je lis un article et je me dis, oh là là, ces types sont vraiment les pires. Et puis plus tard, j'en lis un autre et je me dis, non, les pires, c'est eux. Et puis, on pensait que Merck était les meilleurs, mais ce sont les pires.
Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Ils jouent tous la même partition, ils ont tous les mêmes procédés, le même mépris pour les médecins, le même mépris pour la recherche. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre un maximum.
Alex Berenson.
Les responsables de ces laboratoires se sont-ils jamais posé la question du coût humain de leurs agissements ? J'ai contacté plusieurs employés de l'industrie pharmaceutique. Aucun n'a accepté de répondre à mes questions. Seule une femme ayant participé à la campagne de marketing Viva Zyprexa accepte un rendez-vous. Pour finalement se désister à la dernière minute.
Je regrette de vous avoir dit oui. J'avais quelques réserves au départ et j'aurais dû me fier à mon instinct. Vous savez sans doute que Lilly a eu un procès et que j'ai moi-même dû me rendre au tribunal.
En fait, non, je savais que Lilly avait eu des problèmes, mais j'ignorais que vous aviez dû comparaître.
Eh bien, si. Et tout ça pour avoir fait la bêtise d'ouvrir ma porte quand deux agents fédéraux sont venus me voir. S'agissant de Lilly, on n'a rien fait de mal. On ne faisait qu'obéir aux ordres. Vous savez, si les marques Coca-Cola, Marlboro ou Prozac sont mondialement connues, il y a bien une raison. Ce n'est pas dû au hasard.
On dirait que nos appels commencent à faire grincer quelques dents. Nous recevons des emails et SMS anonymes. Le message est « on ne peut plus clair ».
Le message, c'est « On sait ce que vous manigancez, votre film ne verra jamais le jour, vous feriez mieux d'éviter Washington ».
Anniken, viens.
Quand un être cher est atteint d'une maladie mentale grave, sa souffrance rejaillit sur vous. C'est comme si toute votre famille et vos proches tombaient malades également. Je me souviens du jour où je me suis rendu compte que quelque chose ne tournait vraiment pas rond chez Renate. J'avais 10 ans, et elle 20. Elle a commencé à porter un foulard. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela, et elle m'a répondu, en regardant droit devant elle, mais sans jamais croiser mes yeux, « C'est Dieu qui me l'a ordonné. Quand on ne fait pas ce que Dieu exige, on s'expose à un châtiment. » Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. En un rien de temps, elle m'était devenue étrangère. Elle n'avait plus rien à voir avec ma dada. Par la suite, Renate a enchaîné les séjours en hôpital psychiatrique pendant 14 ans. Elle a été internée plus d'une fois contre son gré. Pour avoir été témoin des épisodes psychotiques de ma sœur à de nombreuses reprises, je comprends que cet état exige une prise en charge médicamenteuse. J'ai voulu trouver des études sur les effets bénéfiques des antipsychotiques. J'ai donc contacté le plus grand institut de recherche au monde sur la santé mentale.
Bonjour, National Institute of Mental Health.
Anniken Hall à l'appareil.
Bonjour.
J'ai appelé la semaine dernière.
Oui, oui.
Ce qu'il y a, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un qui puisse me montrer des études positives.
Oui, je voudrais... Enfin, je suis sûr qu'il en existe, mais moi, là, je n'ai personne. Je vais pouvoir... Je devrais pouvoir vous orienter vers quelqu'un qui a des études positives. Je vais vous envoyer ses coordonnées, d'accord?
Ce serait parfait.
Cet institut n'était pas en mesure de me fournir une seule étude positive. Tout ce que j'ai reçu, c'était cette publication, montrant le manque d'innocuité et d'efficacité des principaux antipsychotiques chez les adultes de plus de 40 ans. Cela m'a paru très étrange, sachant que ces médicaments sont utilisés chaque jour par plusieurs millions de patients à travers le monde. J'ai donc essayé de comprendre précisément le mécanisme d'action de ces molécules, et j'ai découvert que la théorie qui les sous-tend n'a jamais pu être prouvée de façon scientifique.
Alors, on va entendre les interventions de Peter Goetsche, du Centre Cochrane Nordique, et Johanna Moncrief, psychiatre.
Les psychiatres disent souvent à leurs patients qu'ils souffrent d'un déséquilibre chimique. Ils auraient un défaut au niveau du cerveau et devraient donc prendre un médicament pour le corriger. Or, c'est complètement faux. 80% des patients danois croient à ce mythe, du fait que les psychiatres leur ont raconté ces histoires. Dans le cas de la dépression, par exemple, les psychiatres disent couramment que le patient manque de sérotonine, que c'est la cause du mal et qu'il faut donc lui prescrire une molécule pour faire remonter les concentrations de sérotonine. Or, il n'a jamais été prouvé que les personnes déprimées avaient moins de sérotonine dans le cerveau que le reste de la population.
La théorie qui a permis aux antipsychotiques et antidépresseurs d'être prescrits en masse repose sur la notion de déséquilibre chimique. Elle affirme que les maladies mentales résultent d'un déficit de certaines substances dans le cerveau et que les médicaments rétablissent l'équilibre pour aller bien.
La vérité, c'est qu'on ne comprend pas très bien le mécanisme pharmacologique de ces médicaments. Et on n'a donc aucune idée de ce qu'ils peuvent causer s'ils sont pris en association, ni même en monothérapie, a fortiori sur une période prolongée. Cela fait plusieurs dizaines d'années que l'on cherche à déterminer ce qui serait l'origine biologique des maladies mentales. On n'arrête pas de nous dire que la recherche avance, que les résultats sont tout proches, mais que pour l'instant, on n'a encore rien trouvé.
Dans les années 1990, les revues de médecine étaient pleines d'études sur les déséquilibres chimiques et de publicité pour de nouveaux traitements révolutionnaires. Mais cette théorie a disparu de la littérature scientifique. J'ai donc voulu comprendre comment les publications médicales étaient manipulées. Tous les essais cliniques portant sur une molécule nouvelle sont contrôlés par les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. La moitié environ de ces essais sont classés sans suite. Les études faisant état de résultats négatifs sont donc dissimulées aux chercheurs, aux praticiens et au grand public. Quant aux revues médicales, elles n'ont souvent que des études positives à publier.
Les articles publiés dans les revues sérieuses BMJ, Lancet, JAMA ou New England Journal of Medicine influent fortement sur l'opinion que les médecins ont d'une maladie, des options thérapeutiques et de la prise en charge. Ils constituent sans doute le principal outil de marketing des laboratoires pharmaceutiques. Il est tout à fait courant que les articles publiés dans la littérature scientifique soient rédigés ou pilotés en secret par les laboratoires. Des éléments de langage marketing sont fournis à un auteur, puis l'on demande à un professeur en médecine ou un chercheur de signer le texte. Vous avez également des gens qui sont spécialisés dans la rédaction d'abstracts, c'est-à-dire de résumés. Ces abstracts ne sont pas soumis à une relecture par des pairs et bien souvent ne tiennent pas compte des résultats réels sur lesquels repose l'étude. Quand on est médecin et qu'on est pressé, on se contente de lire l'abstract. Et quelle est la partie la plus importante? La conclusion. Et donc si la dernière ligne dit « ce traitement devrait faire preuve de son potentiel lors d'un prochain essai » alors que l'étude n'a rien eu de concluant, le médecin reste sur une impression positive.
L'industrie contribue indirectement au financement de plusieurs de ces revues scientifiques par le biais de la publicité. Ce qui nous conduit au personnage clé du commerce des médicaments, le médecin traitant. Ce sont ses prescriptions qui enrichissent les laboratoires. Pensez-vous que les médecins aient conscience d'être manipulés ?
Non. La plupart des médecins n'y voient que du feu. Et cela tient au fait que cette manipulation est très subtile, très insidieuse. Même un médecin qui n'irait à aucun dîner organisé par les laboratoires, qui ne recevrait pas de visiteurs médicaux et n'accepterait aucun échantillon serait toujours manipulé. Car c'est l'information dans les revues médicales qui est biaisée. C'est l'information dans les congrès qui est biaisée. C'est l'information que les professeurs de médecine fournissent aux praticiens qui est faussée. Et donc, même un médecin parfaitement honnête, intègre et plein de bonnes intentions n'a pas accès à l'information qu'il lui faut pour exercer son art dans les meilleures conditions. Quant à l'industrie, elle mettra toujours en avant les avantages de ses produits tout en minimisant leurs effets indésirables.
Les laboratoires pharmaceutiques emploient des milliers de visiteurs médicaux qui démarchent régulièrement les praticiens pour promouvoir leurs produits. Ces représentants n'ont qu'un objectif, convaincre les médecins traitants de prescrire les médicaments dont ils assurent le marketing. C'est la raison pour laquelle ils les invitent au restaurant et à des conférences et leur distribuent généreusement leur matériel promotionnel. Si aucun diplôme scientifique n'est exigé pour devenir visiteur médical, la formation aux techniques de vente, elle, est très poussée. Pour la campagne de marketing du Zyprexa, Lilly avait créé une série de profils types. Les visiteurs médicaux les utilisaient pour former les médecins à détecter les patients à traiter au Zyprexa. Ces profils peuvent correspondre à n'importe qui vivant un moment difficile de sa vie.
Ce dont je me souviens le plus chez Renate, c'est son sourire. À 25 ans, Renate a rencontré l'amour de sa vie. Quelques années plus tard, ils ont eu une magnifique petite fille. Toute la famille était aux anges. Mais Renate était trop malade pour pouvoir s'occuper de sa fille. Ses sourires se sont fait plus rares. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, se fermant aux autres.
Welcome to the European Parliament in Brussels.
En Europe, on a tendance à penser que tout est toujours pire aux États-Unis. Mais l'industrie pharmaceutique est mondialisée et ses pratiques nous concernent tous. Les autorités européennes, comme les américaines, ont délivré des autorisations de mise sur le marché pour des antipsychotiques sans en percevoir les véritables dangers. Mais qui délivre ces autorisations ?
Bruxelles.
J'ai toujours cru que c'était l'agence norvégienne du médicament qui accordait les AMM. Mais la plupart des médicaments commercialisés en Norvège sont homologués par l'AEM, l'Agence européenne des médicaments. La Norvège n'a aucune autorité décisionnaire propre au sein de l'AEM, qui est une agence de l'Union européenne. Les autorités de régulation ne procèdent à aucun essai clinique indépendant avant l'AMM. L'ensemble des recherches et des études cliniques sont conçues et menées exclusivement par le laboratoire pharmaceutique ayant déposé une demande. Tout ce que fait l'AEM, c'est passer en revue les données que lui fournit ce laboratoire et répondre à une question toute simple : les bénéfices l'emportent-ils sur les risques ? L'AMM du Zyprexa a reposé sur 4 essais cliniques ayant porté sur 3000 personnes sur une période de 6 semaines seulement. Soit un peu plus d'un mois, pour un médicament que la plupart des patients prendront plusieurs années. Les patients sous Zyprexa montraient une légère réduction de leurs symptômes par rapport à ceux ayant reçu un placebo ou un autre antipsychotique. Des effets secondaires ont bien été observés, mais ont été considérés comme mineurs, de sorte que les bénéfices étaient supérieurs aux risques. Un grand nombre des effets secondaires les plus graves du Zyprexa, comme le diabète ou la mort subite, ne sont pas apparus pendant les essais cliniques eux-mêmes. Les véritables dangers n'ont été constatés qu'après la commercialisation du médicament à grande échelle. Ce scénario se répète pour la quasi-totalité des nouveaux médicaments. Les véritables effets secondaires sont souvent découverts après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Cela signifie que les patients sont les cobayes involontaires de l'industrie pharmaceutique. Cela m'aura pris 2 ans, mais j'ai fini par obtenir un entretien avec le directeur médical de l'Agence européenne des médicaments.
Son nom est Hans-Georg Eichler.
Comment désigner les responsables dans ce type de cas ? Ici, il s'agit de plusieurs milliers de morts.
C'est tout à fait regrettable, mais on ne peut pas complètement exclure que certains patients souffrent ou soient lésés. Ceci dit, il peut arriver, effectivement, qu'un individu ne soit pas à la hauteur de ses responsabilités. Ce peut être le médecin traitant, ou même le patient, qui ne respecte pas la posologie, ou n'est pas régulier ou discipliné dans son traitement. Ce peut être aussi le laboratoire pharmaceutique ou le régulateur, qui ignore un signal d'alerte. Tout cela peut arriver, mais il est très difficile d'affirmer que telle ou telle personne n'a pas été à la hauteur. Nous régulons les médicaments, pas l'exercice de la médecine. Il nous appartient de trancher dans l'intérêt supérieur du patient.
Mais dans ce cas, vous ne connaissez pas les risques.
On ne les connaît jamais tous.
Alors comment pouvez-vous évaluer le rapport bénéfice-risque ? Cela n'a aucun sens.
Il s'agit des bénéfices et des risques connus. Il faut le dire franchement. Et en tant que société, il faut accepter le fait qu'il y a toujours une part d'inconnu dans le lancement d'un nouveau médicament.
L'Agence européenne des médicaments émet donc un jugement en fonction de l'analyse bénéfice-risque. Mais comment mesure-t-elle le prix des vies perdues ? L'industrie pharmaceutique bénéficie à Bruxelles d'un puissant groupe de pression. Les laboratoires déclarent avoir consacré plus de 40 millions d'euros en lobbying pour la seule année 2015. Ce lobby a facilement accès aux décideurs et propose son expertise sur la législation européenne et l'élaboration de nouveaux règlements. Après des années de demandes répétées, j'ai enfin obtenu un entretien avec le directeur du lobby pharmaceutique européen, la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, ou EFPIA.
Son nom à lui est Richard Bergström.
Nos façons de travailler manquent encore de transparence. Je veux parler du fait que la recherche sur les médicaments est le fruit d'un partenariat. À la télévision, on vous montre généralement un homme en blouse blanche qui vous parle de ses travaux. Mais le fait qu'il y a derrière lui une entreprise, mais aussi des fonds publics, est peu connu. On a l'impression que c'est une affaire de chercheurs. Mais un chercheur de l'université d'Oslo, par exemple, n'a pas 100 millions d'euros à sa disposition pour faire un essai clinique. Non. Tout ce financement vient de l'industrie.
D'accord. Mais revenons au système d'AMM. Comment a-t-on pu autoriser la mise sur le marché d'antipsychotiques sans se rendre compte que le syndrome du QT long et la mort subite faisaient partie des effets secondaires ?
Parfois, on n'en sait rien. Et l'on découvre des effets indésirables rares après la mise sur le marché. Et cela tient au fait que l'on n'en sait pas encore assez sur les maladies. Quand on prescrit un antidépresseur, on ne sait pas pourquoi il n'y a qu'une chance sur deux qu'il fonctionne. Comment ça se fait ? Est-ce qu'on est complètement crétin ? Non, on n'est pas crétin. Les médecins non plus. C'est juste que la recherche n'est pas allée assez loin et que l'on ne sait pas tout de la maladie. C'est ce qui est à la fois beau et frustrant dans la recherche. Les résultats des études peuvent être contradictoires. Prenez l'exemple des recommandations nutritionnelles. Vous n'êtes pas un peu perdu, vous ? Moi, si. Le sel, bon ou mauvais pour la santé ? Je n'en sais rien. Mais ce qui me rassure, c'est de savoir qu'on a ces autorités de régulation qui exercent un vrai contrôle sur les produits et sur la communication.
L'industrie pharmaceutique contribue au budget de l'Agence européenne des médicaments à hauteur de 87%. En d'autres termes, les contrôleurs sont payés par ceux qu'ils sont censés contrôler.
Parmi les gens qui sont censés contrôler le bien public et veiller à ce que les médicaments soient efficaces et sans danger, un grand nombre sont passés par l'industrie pharmaceutique ou quitteront leur poste pour y aller tout droit. C'est ce qui se passe avec la FDA aux États-Unis ou l'AEM en Europe, et c'est scandaleux. Tant qu'on n'aura pas de contrôleurs indépendants, toute la méthodologie scientifique qui détermine si un médicament est efficace et dénué de danger, restera faussé. Notre système est fondamentalement biaisé.
David Hammerstein, lobbyiste pour les politiques de santé publique.
Je crois que la pire souffrance pour Renate a été de ne pas pouvoir élever sa fille. Le jour où sa fille a eu 4 ans, ma tante et moi sommes allés lui rendre visite. Sur la porte, une plaque portait les deux noms, celui de Renate et celui de sa fille. Il y avait une paire de chaussures d'enfant dans l'entrée. Renate est contente de nous voir. Elle n'a pas oublié l'anniversaire de sa fille. Gâteau d'anniversaire. Elle dresse la table pour 4, nous 3 et sa fille. Elle coupe le gâteau et met la première part dans l'assiette de sa fille, absente. Cette part de gâteau intacte dans son assiette au moment de notre départ. Il est impossible de déterminer avec précision le nombre de décès dus aux antipsychotiques. Les chercheurs l'estiment à plus de 200 000. Mais chaque jour m'apporte son lot de nouveaux cas. La FDA, Food and Drug Administration, est l'autorité chargée d'encadrer le marché du médicament aux États-Unis. J'ai été pendant longtemps en contact avec un ancien évaluateur de la FDA. Il hésitait à me rencontrer et semblait nerveux à l'idée de me faire part de ce qu'il avait observé pendant ses années en poste. Il avait essayé d'alerter le Congrès américain, mais ses tentatives ne lui avaient valu que des menaces.
Ronald Kavanagh.
Pensez-vous que dans vos fonctions d'évaluateur, vous avez eu connaissance de certains détails qui auraient pu sauver des vies ?
Absolument.
Sans aucun doute.
Absolument.
Sans aucun doute. J'ai passé 10 ans à la FDA et à un moment, j'ai calculé que je tombais sur un problème d'innocuité toutes les 6 semaines, plus ou moins. J'ai vu plusieurs problèmes graves être passés sous silence à plusieurs reprises. Vous savez, il y a beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup d'argent. J'ai vu quantité de choses pendant que j'étais à la FDA. Il y a plein de gens bien qui travaillent là-bas. Plein. Mais ce ne sont pas eux qui ont de l'avancement. Un grand nombre démissionnent ou décident de faire profil bas. Il peut leur arriver d'écrire dans leur rapport « Il me semble que tel ou tel point pose problème ». Mais dans la quasi-totalité des cas, leur supérieur leur dit « Les patrons, c'est nous, et on ne voit pas les choses comme vous ». Alors, quand on veut continuer à faire carrière, il faut accepter de se taire.
«
Tout ce que j'ai vu va toujours dans le même sens. Mettre les médicaments plus rapidement sur le marché et limiter la pharmacovigilance.
Il y a des milliers de gens qui meurent et on ne fait rien.
C'est ça.
On ne fait rien pour en parler. Mm-hmm. Et il y a des gens qui, dès le départ, savaient que ces morts allaient avoir lieu. Mm-hmm. Est-ce que j'ai raison de formuler ainsi mon hypothèse ?
Il me semble.
Pendant mon entretien avec le directeur du lobby pharmaceutique européen à Bruxelles, que j'ai compris que nous étions à un tournant de notre histoire, car l'industrie pharmaceutique a de nouveaux plans pour nous et notre avenir.
On va entendre à nouveau Richard Bergstrom.
On se dirige à grands pas vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Tous les projets actuels sur des maladies comme la schizophrénie ou la dépression ont changé. On ne sélectionne plus les patients en fonction de leurs symptômes, mais on fait un test génétique, sur un prélèvement sanguin par exemple, pour remonter aux causes de la maladie.
Une prise de sang ou un test ADN pour trouver la cause de la schizophrénie?
Oui.
Mais tout à l'heure, vous me disiez qu'on n'en savait pas assez sur le cerveau, son fonctionnement et ce qui cause une dépression, une schizophrénie ou autre. Les antipsychotiques ou les antidépresseurs reposent sur des connaissances spécifiques qui disent que telle ou telle molécule fonctionne sur les récepteurs de la dopamine.
C'était l'état des connaissances à l'époque. Mais aujourd'hui, on commence à en entrevoir les véritables causes.
Et quelles sont-elles ?
Mais c'est bien pour ça qu'on a des projets en cours. On ne sait pas encore. Il peut s'agir d'une mutation. Je vais vous trouver les articles scientifiques et vous les envoyer.
J'aimerais beaucoup les voir.
Toutes ces maladies ont bien une cause, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir d'un problème de connexion, un problème physique, peut-être des neurones pas suffisamment reliés. Alors que faire ? Peut-être qu'il faut intervenir directement pour les réparer. C'est ça la nano-ingénierie, un domaine fascinant. À plus long terme, on aura les thérapies géniques, ce qui veut dire que l'on pourra détecter la maladie dès l'enfance ou l'adolescence.
Vous voulez dire que s'il y a eu un schizophrène dans ma famille, vous pourriez me dépister et me dire si j'ai des chances d'être touché moi aussi ?
C'est ça l'avenir. Les recherches sont très prometteuses.
Quand la lobotomie a été inventée, elle a été présentée comme un grand pas en avant pour la science. Aujourd'hui, cette pratique est unanimement condamnée. Quand les générations futures se pencheront sur l'âge de la psychopharmacologie, quel regard porteront-elles sur nous ? D'elle si tu la voyais. Elle te ressemble tellement. La dernière fois que je t'ai vue, Dada, tu me disais au revoir sur le pas de ta porte. Je me souviens encore de ta joue sur la mienne. On s'est embrassé pour la dernière fois. Je me souviens de ton sourire quand tu m'as dit « Bisous ». J'ai fait quelques pas, puis je me suis retournée. Tu étais toujours là, sur le pas de ta porte, à agiter la main et me sourire. J'aimerais tant pouvoir revivre ce moment, courir jusqu'à chez toi et te serrer dans mes bras. Rien qu'une fois, te dire combien je t'aime. Rien qu'une fois, te dire au revoir
une dernière fois.
Alors c'était le documentaire Mort sous traitement, donc qui est disponible jusqu'à aujourd'hui sur le site d'Arte. Et pour terminer, je peux lire un extrait, la fin de l'article qui est consacré à la publication de ce documentaire. Lorsque les discours psychiatriques officiels sont construits au plus haut niveau en fonction des intérêts économiques des laboratoires pharmaceutiques, ils sont logiquement façonnés afin de transformer le plus de personnes possible en consommatrices de médicaments psychiatriques à vie. L'intérêt des personnes psychiatrisées, pouvoir se rétablir pleinement après avoir traversé des difficultés psychiques, entre en totale contradiction avec cette logique. On les voit se transformer en patients et patientes à vie. Ce documentaire permet de comprendre comment se sont construites les pratiques actuelles qui font que lorsqu'on manifeste certaines formes de détresse psychique, la réponse psychiatrique officielle consiste à nous diagnostiquer telle ou telle maladie pour ensuite nous dire « Vous devrez maintenant prendre ce ou ces médicaments toute votre vie. » Cela a pour principal résultat la dégradation générale de notre santé et de nos conditions de vie. La chronicisation massive des personnes qui passent par la psychiatrie n'est pas une fatalité résultant des suites logiques de nos « entre guillemets maladies incurables ». Elle est la conséquence directe d'un système économique qui, ici comme ailleurs, privilégie les profits avant nos vies. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. Et nous vous disons à bientôt, au revoir.
Dans l'éternité du néant, j'étais la plaine,
Athènes. J'étais falaise, un hippocampe ou une chimère. J'étais un rêve, une chanson, une tornade ou un volcan. J'étais Alien ou De Vinci ou Robespierre ou le bourreau. Mais chaque jour, je me demande le nom de moi-même.
Quelque chose de bien monotone qui défie les saisons de l'hiver à l'automne. Va donc savoir à quoi notre amour s'accroche. A-t-on vraiment raison, vieillissant non alors. Reste par habitude. On a passé tant de caps, faut que ça dure. Alors reste par habitude. Jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Il doit bien nous rester deux, trois projets. Acheter une maison, un jardin et un chien. Et puis faut voir comme nos familles s'aiment bien. Allons, gardons raison, vieillir seul non. Alors reste par habitude. On a passé tant de caps, faut que ça dure. Jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. C'est tant de cap, faut que ça dure. Alors reste par habitude. Jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Reste par habitude. On a passé tant de cap, faut que ça dure. Alors reste par habitude. Jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Alors reste. Alors reste. Alors reste. Alors reste. Antinous, où est Antinous? Au creux d'une rivière, au creux d'une rivière, la nuit tombe sur Tibure, la nuit tombe sur Tibure, à l'ombre de ses pins, je n'ai le goût du rien, ni du miel, ni du vin, je n'ai le goût à rien. Ainsi se lamentait l'empereur Adrien à l'aube d'un départ vers un monde incertain. Où est Montinos? Où est Montinos? Ami, amour toujours, ami, amour toujours, illuminant ma vie, arrondissant mes jours, ami, amant toujours, ami à mort toujours. Ainsi se lamentait l'empereur Adrien à l'aube d'un départ vers un monde incertain. Toi, mon Marc Aurel, je t'écris cette lettre. À toi, mon Marc Aurel, je t'écris cette lettre. Mes triomphes sont loin, tout comme mes défaites. Tiburé dans la brume, noir mon cœur un peu plus. Ainsi se lamente à l'aube d'un départ vers un monde incertain. Quelles que soient nos époques, non, rien ne meurt jamais. Quelles que soient nos époques, non, rien ne meurt jamais. Comme l'amour conce-vous, comme l'amour conce-vous, comme rien ne change jamais, on le regrette toujours. C'est ainsi que le clan des millions d'Adriens, juste avant leur départ vers un monde incertain.
Que t'as perdu ton boulot, que ta mère a un cancer et que ton chat a crevé. Quand t'as perdu tes lunettes, que le poisson dans l'assiette a une couleur bien verte, c'est pour mieux t'intoxiquer. Crois-moi, ça pourrait être pire s'il y avait une fuite de gaz, une tornade dans le quartier, saupoudrée d'un attentat. T'aurais pu être confiné avec un tueur en série. Consolation. Consolation, consolation, consolation. Si tu dors en réunion, quand t'es en période d'essai, que t'as une indigestion au milieu du jacuzzi, si tu prends le sens inverse sur l'autoroute à minuit, que tu finis à l'hosto, que tu frôles l'euthanasie, crois-moi, ça pourrait être pire. On pourrait squatter chez toi, te vider ton compte en banque, te ligoter sur ton lit. Dans tes terreurs les plus folles, tu pourrais te faire abducter. Consolation, consolation.
Si ta carte bleue ne passe pas, que t'as pas de cash sur toi, que ton portable est HS comme ton disque dur externe, que ton voisin est fâché, et d'ailleurs son chien aussi, que personne peut te blairer au boulot même vendredi. Crois-moi, ça pourrait être pire, tu serais en train de fuir, et des bombes sur ton village, et des violences aguerries. Allons donc prendre du pastis, quoi, elle est pas belle, la vie.
Devant ce monde, la vaine quête de l'espérance. Et pour tenir, il faut l'amour. Moi je l'attends au rendez-vous, à Port-Gentil ou à Moscou. Peut-être que je fais fausse route. J'ai pas la foi, mais je vais bien. Où que tu sois, mais ça ne fait rien. J'ai pas la foi, mais je vais bien. C'est ce qu'on dit quand rien ne va. Je crois en l'homme, comme le chantait la Ribeiro. Mais ces croyances étranges en somme ne valent que pour un chanteur mort. En attendant, il faut l'amour. Moi je le cherche dans les moindres détours, comme un reflet le long de l'Ourcq. On peine à en voir les contours.
fois, mais je vais bien où que tu sois. Mais ça ne fait rien, j'ai pas la foi, mais je vais bien. C'est ce qu'on dit quand rien.
Ce grand salaud va rendre l'âme. C'est pas trop tôt, nous dit sa femme. Il a trompé sans état d'âme. Pour lui, elle a perdu la flamme. Elle le regarde, tout soupirant. Elle attend le précieux moment. Avec une bouteille de crémant, moi j'ai apporté des croissants. Dans la demeure, on attend sagement qu'il meure. Mais il y a de la joie et je demeure. On a préparé mon cercueil. On a préparé mon cercueil. Ce grand salaud pousse un soupir. Je vois son fils vraiment ravi, qui a connu surtout le pire, hein. Oui, avec ce père de pacotille, il a la clé du coffre-fort, il cache précieusement le curare. Tuer quelqu'un, c'est pas son fort, il faut dire que pour lui, c'est rare. Il fait tout droit dans la demeure. On attend sagement qu'il meure. Mais il y a de la joie et je demeure. On a préparé mon cercueil. On a préparé mon cercueil. Ce grand salaud a les joues grises, l'air clair, le corps en cloque, la voyez ça fond. L'œil qui se vide, sa fille ne joue plus les soumises. De sa morelle devient avide. N'allez pas croire qu'il a cherché. Les autres ne sont pas des saints.
seulement il les a fait chier. Croyez-moi, c'était à dessein. Il fait tout noir dans la demeure. On attend sagement qu'il meure. Mais il y a de la joie, mais je demeure. On a préparé mon cercueil. Oui, il est beau, hein. On a préparé mon cercueil. Et la petite fille, venue d'Afrique, se retrouve déboussolée face à son grand-père adoptif, qui fut le seul à t'en aimer. Elle voudrait que cesse ce cirque, elle voudrait se désaltérer. Elle suffoque d'être captive dans cette famille de tarés. Et le salaud n'est pas celui qu'on croit. Il ne fait qu'assumer son fardeau. Il porte les autres comme une croix. Il sera le premier dans le caveau. Il se dit. Il fait trop froid en ma demeure. Est venu le temps où je meurs. Voyez comme ma joie demeure. On a préparé mein cercueil. On a préparé mein cercueil. Il fait trop froid en ma demeure. Est venu le temps où je meurs. Voyez comme ma joie demeure. On a préparé mon cercueil. On a préparé mon cercueil.
Au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, n'est-ce pas Mariam?
Tout à fait, c'est, j'ai bien peur.
Ouais, bien sûr, et bien sûr avec Monique à la technique. Monique,
là c'est quelque chose ça.
Elle est sortie de sa retraite à l'abbaye de Royaumont, spécialement pour nous assister aujourd'hui encore une fois, merci Monique. Donc Marianne Majidi, bonjour.
Bonjour.
Pour ce livre aux éditions de Nouvelle Attila, hein, on va parler un peu de l'éditeur, on va lui faire un petit clin d'œil quand même.
Parce bah oui, bah
que
il
pour
faut.
Pour raconter un peu, Nouvelle Attila, c'est Benoît Viro.
C'est Benoît Viro, voilà.
L'éditeur le plus précis de toute l'histoire de l'édition. Et puis voilà, Charline Dossa, qui est venue à Radio Libertaire. Tout simplement parce qu'elle est critique à la Revue des Deux Mondes et elle a lu la peinture Adora, qui a publié le Nouvel Attila il y a quelques temps. Vous l'avez lu ou pas, la nouvelle?
Malheureusement, non.
Ah, c'est très intéressant.
D'accord, je lui dirai.
C'est très, très, très bien et vraiment quelque chose de fondamental par rapport à pas mal de choses politiques, historiques et puis par rapport à une lucidité aussi.
Très bien.
Bon, Marx et la poupée.
Voilà.
C'est le titre, c'est vous tout seul qui avez trouvé ce titre?
Ah non.
Alors voilà, ça commence bien.
En fait, moi j'avais trouvé la poupée et Marx.
Ah, c'est moins bien.
Ben voilà. Hein, comme quoi l'éditeur est tout de même très important dans, dans le choix du titre. Donc moi j'avais trouvé La Poupée et Marx, et puis en fait on avait rendez-vous avec Benoît et j'avais ramené 30 titres. D'ailleurs on les voit, hein, dans le petit bandeau détachable, les titres auxquels vous avez échappé. Voilà. Et donc parmi ces 30 titres, il y avait La Poupée et Marx, et je l'ai à peine dit que Benoît s'est extasié en disant « Mais c'est fabuleux, c'est ce titre-là qu'il faut, on va juste l'inverser, Marx et La Poupée ». Donc voilà. C'est comme ça qu'on l'a trouvé.
C'est vous qui avez aussi trouvé la couverture, qui est un peu, alors j'ai pas dit mensongère,
qui trompe.
Oui, qui trompe. Je l'aime beaucoup.
Parce qu'on s'attend à quoi en fait.
Elle est magnifique, ça tout de suite. Mm-hmm. Mais oui, elle trompe.
D'accord. Elle le trompe titre aussi. On va creuser ça.
Mais ouais. Disons que la couverture est très très belle. Je réitère, elle n'est pas tout à fait en osmose avec sujet.
Alors en fait, j'ai trouvé le photographe, moi, Arthur Tresse, j'avais suivi déjà son travail bien avant, notamment quand j'étais en master de français langue étrangère, où on nous avait demandé de travailler sur des photos de photographe, et j'avais découvert son travail à ce moment-là, et j'avais envoyé du coup une série de photos à Benoît, et la photo a été choisie par lui.
Voilà. Elle est magnifique, mais encore une fois, elle n'est pas en osmose avec le sujet.
Parce que vous la trouvez dure, en fait, vous pensez qu'on va parler des enfants de la guerre.
On est toujours influencé par quelque chose. Mm. Et oui, alors qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Beyrouth, j'ai vu les enfants de la guerre, j'ai vu tout ça, mais je n'ai pas vu Marx et la poupée, sur lequel on va revenir Charline Dossa, vous avez lu La peinture Adora?
Tout à fait.
Vous êtes capable d'en dire quelques mots? Oui,
oui, bien sûr. Alors, François de Lyonnais, c'est un ingénieur chimiste à la base, résistant durant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été arrêté en 1944 par la Gestapo et envoyé dans le camp de Dora Mittelbau, qui était destiné à la fabrication de missiles. Il a participé au sabotage de la mécanique des armes, et dans La peinture Adora, il nous livre son témoignage et il nous explique comment il a pu survivre face à toutes ces horreurs. Donc il a trouvé un meilleur ami dans ce camp de concentration nommé Jean Gaillard. Et ensemble, ils vont parler de mathématiques, de chimie, de philosophie, pour enfin aboutir à la peinture. Et compte tenu de l'absence de tableaux et ils n'avaient aucune œuvre tangible sous la main, ils ont donc décrit avec une extrême précision ces peintures, puisque François Le Lyonnais et son ami avaient une mémoire remarquable. Et donc, ils recomposaient, décomposaient et décrivaient ces tableaux. Ce qui leur ont permis de tout simplement se rattacher à leurs souvenirs, à l'art, pour pouvoir survivre. Et donc on peut lire ces descriptions des tableaux dans le livre, et en plus visualiser les œuvres qui sont visibles à la fin du livre. J'ai retenu une phrase qui dit « C'est ainsi que nous contemplâmes longuement avec les yeux de la pensée la Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck ». Et donc ça décrit complètement le livre, puisqu'on passe de l'imagination d'une œuvre à sa vision à la fin du livre.
C'est un exercice de lucidité aussi,
oui,
non?
Oui, complètement, et c'est un exercice d'abstraction de la mémoire et d'une concentration extrême qui fait qu'il se rattachait à tous ses souvenirs, et c'est un mélange entre l'abstrait et le concret. Et on retrouve également l'aspect historique, puisque c'est aussi un témoignage d'un homme dans un camp de concentration, et ça nous montre le pouvoir de l'art, sa portée, et également celui des sciences, puisqu'ils en ont énormément parlé, et c'est comme une échappatoire à toutes ces horreurs.
D'accord. Vous le conseillez, ce livre, là?
Oui, oui. Le
8
texte
euros,
est très,
donc c'est
très
magnifique,
beau.
Au niveau de la lucidité. Ils sont dans un camp de concentration, et par la force de l'imaginaire, ils recomposent les toiles du musée du Louvre.
Et donc il réinvente aussi des tableaux lui-même.
Oui, c'est ça.
Il en crée, et c'est vraiment très très beau. Le texte est très bien écrit.
Voilà, je vous le conseille.
Hein. Mais écoutez, je le lirai avec grand intérêt. Voilà. Très bien.
Et puis, sans faire un détail prosaïque, ça coûte 8 euros.
Ouais.
Et là, c'est bien. Alors là, franchement, c'est un livre qu'on prend, qu'on met dans son sac, qu'on peut le lire et passer.
On peut le lire et le relire, et se lire.
Alors, avant qu'on commence notre entretien, Mariam, alors, dans votre livre, c'est marqué à un moment donné, je suis à l'école, et il y a deux façons de dire mon prénom.
Oui.
Comment on le dit?
En persan?
Oui.
Mariam.
D'accord, et Mariam.
Mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, non?
Mariam et Mariam.